Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Catherine, Michel Cotta, Gérard Kerrero et Charles Villeneuve qui, à l'instant, parlait de ce plan 2030 qui, vous disiez, était le reflet de l'échec de l'Europe.
Oui, et de l'Union européenne, puisqu'on se replie sur soi quasiment pour essayer de faire de la France un champion et surtout de repeupler son industrie.
Catherine Ney.
Non, mais ça, ce n'est pas l'échec de l'Europe, c'est d'abord l'échec de la France. Hein. Nous, on a fait les 35 heures au moment où Schröder, lui, au contraire, faisait travailler les gens plus en étant payé moins. Et donc, il a refait une industrie pendant que nous, on était en train de la casser. Donc, nous, on vit sur... Je veux dire, aujourd'hui, le budget est absolument insincère.
Donc, qui l'a cassé ?
Qui l'a cassé, quoi ?
Michel Cotta.
Mais c'est pas les Européens, c'est les Français.
Mais non, on est d'accord, mais c'est quel gouvernement ?
Mais non, tous, mais... depuis
d'accord.
40 ans, on est très mal.
Très bien.
C'est pas
non,
Macron.
Mais...
Non, mais là, tu fais une analyse, non pas par rapport au discours, tu fais une analyse par rapport à l'idée que tu as du fait de la dette publique, qu'on n'a plus d'argent et qu'on va le chercher pour essayer de remonter une industrie.
Mais c'est pas la même chose, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, mais 30 milliards, il faut les emprunter.
Oui, mais d'accord, mais le
budget de cette année, il y a 424 milliards de dépenses de fonctionnement. Il n'y a aucun pays qui dépense autant dans l'administration publique et tout ça. Pour 24 milliards d'investissements, dont 14 pour l'armée. Donc maintenant qu'il en rajoute 30, par rapport à ce que font les autres pays pour investir dans leur industrie, c'est bien et c'est peanuts. Et encore, il faut savoir où on va investir pour être sûr ensuite de pouvoir produire et vendre à l'extérieur, exporter. Notre problème aujourd'hui, ce sont les exportations.
Non, mais quand tu dis pour poursuivre ce qu'a dit Catherine, moi, je voudrais juste dire une chose. On a dit qu'il y a une dimension presque de nouveau gaullisme dans ce grand plan, parce qu'on se souvient d'un gaullisme, gaullisme triomphant, qui avait été le gaullisme industriel, celui du général, qui nous a permis... Et il n'y a qu'un point qui montre bien la relativité de ce qu'est... Pour moi, Macron, c'est le gaullisme du pauvre. Et le gaullisme du pauvre illustré par le nucléaire.
Pour le président des riches, c'est pas mal.
Regardez ça. Regardez ce président qui commence en nous disant on va fermer 14 réacteurs, qui ferme Fessenheim et qui maintenant nous fait un numéro sur les mini-centrales dont on n'a même pas commencé à voir l'esquisse de l'esquisse. Donc c'est ça que j'appelle le gaullisme du pauvre. Malgré l'argent magique et les milliards, c'est le gaullisme du pauvre, pauvre au niveau de la conception et au niveau de l'opposition.
Évidemment, si on revient en arrière par rapport au plan électronucléaire français... qui finalement a fait construire 56 réacteurs. Bon, et pas de toute façon des réacteurs comme les mini-réacteurs, des réacteurs entre 800 et 1200 mégawatts.
Moi, ce qui m'a frappé dans le plan, en dehors des chiffres, en dehors des annonces, ce qui m'a frappé dans le plan, c'est qu'il dit que c'est la seule façon pour la France de ne pas décrocher. Pour d'autres, on pourrait dire c'est la seule façon pour la France de gagner. C'est-à-dire qu'il se met, au contraire, aujourd'hui, la France est en train de décrocher et il veut éviter ce décrochage. Je trouve ça très intéressant. Et en même temps, il a dit hier un truc une phrase que les gens n'aiment pas du tout. Il a dit les Français travaillent moins que les autres. Je vous rappelle que aucun président ne dit ça comme ça.
Mais il le disait déjà quand il était ministre des Finances, il était contre les 35 heures. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ?
Qui a fait quoi contre les 35 heures depuis Jospin ? Ni Sarkozy, ni Chirac, ni personne.
Il avait fait des heures supplémentaires défiscalisées, au moins.
Il prévoit d'investir 30 milliards. Il faut savoir qu'une industrie comme celle de Samsung investit par an 15 à 18 milliards sur la recherche. Par an.
Rien que le RSE, d'accord.
Oui, on a quand même... Les deux points faibles, effectivement, c'est la recherche, l'éducation.
Moi, je pense que la force de Macron, c'est qu'il a une ductilité intellectuelle, une parole qui, malgré tout, si elle ne rassure pas, impressionne les gens. On se dit, il est le plus fort. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé à droite quelqu'un qui vous emporte par le verbe.
C'est l'enchanteur,
Français,
le côté enchanteur.
Il n'a pas d'adversaire. Voilà, en réalité.
Mais il a beaucoup d'ennemis.
Pour l'instant,
mais
il a beaucoup d'ennemis. Pour l'instant, Charles Villeneuve.
Oui, en tout cas, on n'a pas identifié l'adversaire.
Il a beaucoup de gens qui...
Peut-être va-t-on l'identifier. Il reste 6 mois pour l'identifier.
Mais il reste il reste beaucoup de gens qui le détestent.
Ça sera l'occasion d'en reparler samedi prochain, les grandes voix.
Bah oui, puisqu'on a fini.
On va dire bonjour à Laurent Mariotte. Bonjour Laurent.
Bonjour Pierre, bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Moi non plus, je ne suis pas tout seul, je suis avec Yves Candebord et Charlotte Langrand. On va s'intéresser aussi à l'état de la France, mais à l'état de la France dans nos assiettes. Est-ce que le bourguignon va être remplacé par le kebab? Et bien, on va se poser la question et on fera ripaille avec Dominique Farrugia. A tout de suite.
Vous me donnez une idée, je vais aller prendre non pas un kebab mais un bourguignon. Avec les grandes voix justement.
Un bœuf bourguignon, il n'y a, rien. Il y a rien.
Non mais vous savez ce qui frappe, j'ai pas mal de copains là, qui sont arrivés cette semaine, qui se sont baladés dans Paris. Qui vivent aux États-Unis, qui vivent à Miami, qui vivent à l'étranger, ils sont impressionnés par la saleté de Paris.
Eh ben nous, on va aller manger un bœuf bourguignon. À tout de suite, Laurent Mariotte.